Radio Okapi.
Échec entrepreneurial en RDC, diagnostic et solutions sur le thème d'un webinaire organisé le 26 février 2026 par Target SRL, cabinet de conseil en marketing et en études des marchés. De nombreux jeunes entrepreneurs ainsi que ceux qui souhaitent se lancer dans ces domaines y ont pris part. Dans un contexte économique congolais où les taux d'échec entrepreneurial demeurent un défi majeur pour le développement du secteur privé, cette initiative de Target SRL à travers ses webinaires animés par Serge Mumbu a permis d'identifier les principaux facteurs qui conduisent les entreprises à leur perte. Il a également décortiqué les stratégies que tout entrepreneur est censé maîtriser pour assurer la pérennité de son activité. Aujourd'hui, de plus en plus de jeunes Congolais sont inspirés et motivés à créer leurs propres entreprises. Cependant, ils se heurtent à plusieurs obstacles, notamment le manque de capital de départ et la peur de l'échec une fois engagés dans l'aventure entrepreneuriale. Quelles sont donc les causes de l'échec entrepreneurial en RDC, particulièrement chez les jeunes? Que faire pour réussir son idée d'entreprise? Nous en parlons dans ce magazine 100% jeunes avec Serge Mumbu, directeur général des Target SRL. Cette émission est mise en onde par André Mungu, coordination et présentation grâce à Mzati. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous.
Radio Okapi, le souffle du Congo.
Le cabinet spécialisé en études des marchés et en conseil en marketing, Target SRL, a organisé le 26 février 2026 un webinaire, c'est-à-dire un rendez-vous en ligne consacré à l'échec entrepreneurial en RDC. Cette conférence a réuni une centaine de participants, majoritairement des jeunes entrepreneurs et des aspirants à l'entrepreneuriat. Nous recevons dans ces studios Serge Mumbu, animateur de ces webinaires et responsable des Target SRL.
L'invité.
Serge Mumbu, bonjour.
Bonjour.
D'entrée de jeu, pourquoi le choix de ce thème, échec entrepreneurial en RDC?
Bon, le choix s'explique parce que nous rencontrons beaucoup de gens qui ont échoué dans le business. Moi, je connais beaucoup de gens, même tout autour de nous. Il y a beaucoup de gens qui ont lancé des business, qui malheureusement, ces business n'ont pas abouti. Et nous savons également que par rapport aux statistiques, il existe à peu près 3/4 des entreprises disparaissent dans les 3 ans. Ça, c'est une statistique mondiale. Ce qui fait que le taux d'échec est très élevé. Alors, on s'est dit qu'on essaie quand même de regarder cet aspect-là pour essayer de donner quelques éléments, quelques idées pour qu'on puisse minimiser cela. C'est vrai qu'on parle beaucoup plus de réussite généralement, mais les cas d'échec sont beaucoup plus grands. Donc, on a voulu s'intéresser à ça. On a voulu parler de la situation en RDC parce que nous-mêmes, nous avons cette expérience-là au niveau de l'entrepreneuriat parce que moi-même, je suis entrepreneur. Donc, c'est depuis 98 qu'avec quelques collègues, on avait lancé une première société. Et ce qui fait qu'on est déjà dans le bain. Et on a voulu vraiment parler à la fois de notre propre expérience par rapport à ce que nous avons commis comme erreur, mais également par rapport aux erreurs que nous avons observées. Et comme nous sommes aussi dans un cabinet d'études Target qui fait beaucoup d'études de marché sur les PME, nous sommes dans des conseils d'administration qui traitent les dossiers des PME. Ça fait qu'on s'est dit, profitons un peu de tout ce que nous avons constaté là pour essayer de relever quelques aspects. Et nous avons beaucoup plus parlé des aspects endogènes. Parce qu'on s'est dit que c'est vrai que l'échec des entrepreneurs, ça peut aussi être lié à des facteurs liés à l'environnement, la crise économique, la situation du pays, le climat, les affaires. On n'a pas voulu trop insister sur ça parce qu'on sait que ça, c'est quelque chose qui affecte toutes les entreprises. Mais on se dit les facteurs endogènes dans le sens que quels sont les éléments qui font qu'un entrepreneur, par ses choix, puisse échouer. Voilà qu'on a parlé beaucoup plus des facteurs endogènes.
Voilà, on va justement parler des causes selon vous parce que vous avez développé tout cela lors de votre webinaire. Alors, beaucoup de jeunes se posent la question de savoir comment faire pour créer son entreprise. Parce que tout commence par là. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'un jeune puisse monter son entreprise?
Bon, déjà pour monter l'entreprise, déjà il faut que dès le départ, parce que c'est vrai qu'il y a les volets administratifs, mais il faudrait que dès le départ qu'il existe un besoin non satisfait ou insuffisamment satisfait, ou bien une innovation que vous estimez pouvoir lancer sur le marché. Donc déjà que cela puisse exister et vous dites ok, ça je vais démarrer mon business pour pouvoir répondre à ce besoin-là ou pouvoir lancer sur le marché un produit innovant qui va me permettre de gagner de l'argent. Donc là c'est d'abord la première étape. Et la deuxième étape, bien sûr, il y a ce qu'on appelle le volet administratif, qui consiste à obtenir les documents au niveau du guichet unique. On va aller là-bas, il faut légaliser les statuts, il faut rédiger les statuts, il faut les légaliser, et après faire tout ce qu'il y a comme démarche au niveau de registre de RCCM, c'est-à-dire obtenir un registre de commerce, une identification nationale, etc. Donc ça, c'est le volet administratif qui existe. Mais au départ, il faut qu'il y ait un besoin que vous êtes en mesure de satisfaire mieux que ceux qui sont actuellement sur le marché.
Parlons-en les causes de l'échec, parce que nous avons aussi constaté qu'il y a des jeunes qui ont des initiatives, mais après qui n'aboutissent pas. Qu'est-ce qui peut justifier cette situation selon vous?
Bon, déjà, dans notre webinaire, on avait déjà épinglé la non-maîtrise du secteur. Parce qu'il y a des gens, vous regardez, vous rendez compte, vous dites, ok, tout le monde va à Dubaï pour acheter des histoires, tout le monde fait la vente en ligne, tout le monde veut ouvrir un restaurant, etc. Vous dites, ok, moi aussi je veux ouvrir un restaurant. Mais vous ne maîtrisez pas le secteur, vous connaissez pas les tenants et les aboutissants. Vous le faites juste parce que vous avez constaté que apparemment ça marche, ou plutôt vous avez suivi, entre guillemets, un influenceur ou bien quelqu'un sur LinkedIn qui s'est vanté et dire que voilà, moi je fais ça, je fais ça, je fais ça. Mais vous ne maîtrisez pas, parce qu'il y a parfois des coûts qui ne sont pas souvent révélés. Je prends l'exemple d'une dame qui a l'habitude d'aller en mission de service ou qui a l'habitude d'aller en vacances. C'est vrai qu'elle profite de cette mission de service, elle profite de ses vacances pour faire quelques achats et venir revendre. Donc elle va vous dire par exemple que voilà, tel produit, ça coûte 10 dollars à l'extérieur et je peux le vendre ici à 20. Je fais 100% de bénéfice. Donc vous pouvez avoir l'impression que ça marche. Or, la personne ne vous a pas dit que il faut voyager, il faut le séjour et autres. Donc ce sont des dépenses qui doivent être incluses dans vos coûts. Ce qui fait que si vous ne maîtrisez pas ça, vous allez vite partir, voyager, mais quand vous allez vous revenir ici, vous vous rendez compte que déjà à l'aéroport, il faut peut-être payer des taxes, etc., etc. Et avec tout ce que vous avez dépensé comme billets et séjour, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas rentable. C'est parce que justement, vous ne maîtrisiez pas le secteur. Ou vous travaillez quelque part, vous n'avez pas le temps, quelqu'un vous dit non, voilà, on va essayer d'ouvrir le business de transport en commun, ça marche bien, ainsi de suite, ça marche bien, voilà, le versement c'est autant, donc ça peut aller, etc. Bon, vous le faites, mais vous ne connaissez pas les tenants et les aboutissants. C'est vraiment la cause principale des gens qui se lancent, comme je peux le dire, aveuglement dans le business. L'autre cause aussi, c'est au niveau des coûts réels d'investissement. Vous savez, il y a certaines activités. J'étais dans une réunion hier, par exemple, on parlait de l'économie verte, par exemple la gestion des déchets. C'est vrai que ça peut paraître quelque chose apparemment d'intéressant, mais l'énergie solaire, mais il y a des coûts. Il y a des coûts, il y a certaines autorisations qu'il faut pouvoir obtenir. Ça fait que lorsqu'on n'a pas cette maîtrise-là, on va se lancer et on va maintenant découvrir, une fois qu'on est dans le business, que voilà, il y a telle réalité, voilà, il y a tel problème, il y a telle situation, etc. Voilà pourquoi nous recommandons justement que c'est important de faire des études, faire une étude de marché bien avant, ou si vous n'avez pas peut-être pas les moyens de faire une étude de marché, au moins une analyse. Moi, j'appelle ça une analyse dans le sens que vous observez, vous posez des questions aux gens, vous essayez d'obtenir quand même certaines informations qui vont vous permettre dans ce cas-là à y aller en connaissance de cause. Or, beaucoup n'y vont pas en connaissance de cause, ce qui fait que ça arrive des fois où malheureusement ils constatent certaines réalités et après ils décident d'arrêter.
Beaucoup d'entrepreneurs, particulièrement les jeunes, attribuent souvent l'échec à la fiscalité. Ils supposent que l'État ne permet pas aux jeunes, ne permet pas aux citoyens d'entreprendre au regard de la fiscalité. Est-ce que vous êtes de cet avis?
Bon, c'est comme je vous ai dit, lorsque vous lancez votre business, vous devez bien connaître les tenants et les aboutissants de votre business. Mmh. Parce que je prends l'exemple de ceux qui sont dans le secteur de la publicité. Il y a des taxes légales à payer. Ces taxes-là existent. Et même dans les factures et autres, ces taxes-là sont censées être intégrées. Donc ça veut dire que si vous avez déjà ça à l'esprit, vous allez déjà intégrer ça dans vos charges, déjà dans vos dépenses. Vous savez que, par exemple, je dois payer la TVA. Or, qu'est-ce qui se passe? On n'intègre pas les charges et les taxes. Et à la fin, lorsque les gens de la DG ou autres vont voir votre panneau quelque part ou bien votre affiche, ils viennent vous voir, en ce moment-là, ils vont commencer à réclamer des taxes. Et s'ils ont raison, normalement ou malheureusement, dans ce cas-là, vous aurez l'impression que c'est une tracasserie. Alors qu'au départ, si vous saviez, vous allez le faire. Et même dans notre webinaire, on a beaucoup insisté sur ça. On a dit que, par exemple, lorsque vous lancez votre business, vous devez, en tout cas, vous faire accompagner d'une personne qui maîtrise la fiscalité. Parce que lui, au moins, va vous orienter. Et lui, au moins, va vous dire, ça, ne faites pas, ça, faites. Et même plus tard, lorsque les gens de la DGI ou DGRK et autres vont venir, ou communes vont venir vous, entre guillemets, vous embêter, il pourra vous conseiller. Parce qu'il y a parfois des taxes qui n'existent pas ou dans lesquelles vous êtes exonéré. Ce qui fait que quand on va vous dire non, voilà, vous devez payer telle taxe, on va vous dire non, ne payez pas telle taxe. Voilà pourquoi on a même dit que dans le choix des associés, il faudrait voir. Si vous n'en avez pas un associé, mais vous devez avoir avec vous un fiscaliste. Parce que lui, au moins, il va bien vous orienter. Et comment avoir les services d'un fiscaliste? On a dit, soit vous l'intégrez dans le capital social, soit par contre, vous pouvez lui proposer une compensation. Parce que je sais que généralement, quand on est jeune, même nous, quand on avait commencé, on n'a pas les moyens. Je n'ai pas les moyens d'avoir un fiscaliste, je n'ai pas les moyens d'avoir un marketeur, etc. Mais je peux approcher un marketeur et essayer de voir, est-ce qu'on ne peut pas négocier de sorte que s'il y a peut-être un service que moi, je peux lui donner, lui, en échange. Je donne mon exemple. Quand on avait commencé, on avait besoin de la communication. On a travaillé avec quelques amis qui étaient journalistes. On leur donnait un peu de contenu par rapport à leurs articles. Et eux, en échange, ils essayaient de couvrir nos activités. Ou vous êtes dans les cleanings, par exemple, vous pouvez décider de commencer à vous occuper d'abord de la maison de quelqu'un. Mais cette personne ne vous paye pas cash, mais cette personne au moins vous fait bénéficier des services. Donc ça peut être une stratégie pour pouvoir recourir. Parce que lorsqu'on lance un business, comme je vous ai dit, le fiscaliste, c'est quelqu'un de très important. Vous devez avoir des notions de comptabilité aussi. Pourquoi on parle de la comptabilité? Parce qu'il y a une différence entre le chiffre d'affaires et les bénéfices. Alors si vous n'avez pas cette notion, vous allez facturer 10, vous êtes content, j'ai gagné 10, alors que peut-être que pour gagner 10, vous avez peut-être eu des charges. Donc, vous avez dépensé jusqu'à 3. Ce qui fait que, normalement, il reste 7. Or, dans les 7, là, vous avez des charges fixes, normalement, que vous êtes censé compléter. Donc, si vous avez ces notions-là, vous saurez maintenant vous dire que, OK, j'ai peut-être pas une marge grande. En ce moment-là, je veux faire. Et n'oubliez pas aussi qu'au début de business, généralement, c'est peut-être à partir de la deuxième, troisième, quatrième année qu'on commence maintenant à voir un peu plus clair. Parce que ce qui est généralement engrangé au début doit permettre de réinvestir. Parce qu'il y a toujours, au début, il y a toujours des choses qu'on est censé toujours compléter. Peut-être tel document qu'on n'a pas encore. Peut-être qu'au début, on était dans un, on avait un bureau peut-être mallette. On a un peu plus d'argent. On se dit, je prends un espace de coworking. Mais si l'activité augmente, peut-être qu'on se dit, OK, je prends un petit bureau quelque part. Mais si vos clients sont tous en ville, vous allez vous dire, ah, peut-être que c'est mieux que j'ai un bureau en ville. Vous voyez que plus vous grandissez, plus il y a toujours des besoins. Peut-être vous aviez des gens qui, au départ, vous ne les payez pas. Maintenant qu'il y a un peu d'entrée, vous allez commencer à payer. Donc, ça fait qu'au début, généralement, avec des bonnes notions de comptabilité, on sait que, voilà, je dois prendre tel pourcentage pour mon marketing, tel pourcentage pour mes charges, tel pourcentage pour les investissements. Ça peut vous permettre de savoir un peu concrètement comment faire. Vous avez besoin d'un juriste parce que le juriste va vous aider pour rédiger les statuts. Et aussi, le juriste est censé vous aider aussi à signer des contrats. Parce que quand vous allez travailler avec des gens, il y a des gens qui vont commencer à vous exiger des contrats. Il ne faut pas accepter n'importe quoi. Moi, j'ai des gens qui ont pleuré parce que on lui a proposé un contrat. Il s'est dit, OK, je vais vite gagner le marché. Mais après, on lui dit que non, voilà, si vous remettez après 2 jours, vous allez avoir 5% des pénalités. Il a remis le travail après 5 jours. Et après 10 jours, et quand il s'agissait de lui payer le solde, on lui a coupé l'argent. Il me dit, mais non, mais quoi, comment vous allez me couper l'argent alors que dès le départ, on s'était pas convenu de ça? Mais après, on se rend compte qu'on lui dit, regardez dans le contrat, tel article, il disait 1, 2, 3, 4. Il s'est rendu compte de ça, mais après. Donc ce sont des personnes, notamment quelqu'un de la communication, quelqu'un du marketing. On s'est dit que la réussite, c'est vraiment aussi être très bien entouré des compétences qui vont vous aider. Et ces compétences-là, comme on l'a dit, ils peuvent être soit associés, soit vous les connaissez, vous êtes censé travailler ensemble, échanger des services. C'est en ce moment-là qu'avec cet encadrement-là, vous allez éviter de commettre des erreurs.
C'est une très bonne occasion pour vous, Serge Mumbu, d'aider tous ces jeunes qui sont en train de nous suivre. Vous avez tout à l'heure parlé d'un point plus important concernant les moyens. Au départ, vous avez dit que pour mettre en place son entreprise, d'abord tout commence par l'idée. Et l'idée là, c'est constater un problème ou alors vous voulez apporter une innovation. Mais n'est-ce pas, il faut aussi avoir les moyens. Aujourd'hui, on parle de Serge Mumbu comme entrepreneur des renoms. Justement, il a un début. Et ces jeunes-là se poseraient la question, on peut commencer avec combien par exemple?
Bon, déjà moi je peux vous dire que moi j'ai commencé avec rien. J'étais dans le domaine des études de marché, les sondages, on a commencé avec rien. Donc on n'avait pas nécessairement les moyens avec nous. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que quand vous n'avez rien, vous êtes censé réfléchir pour approcher des personnes pour les convaincre que vous pouvez faire pour eux les services. Ça dépend des secteurs dans lesquels vous êtes. Or, il va se poser le problème d'expérience. Souvent, les gens sont un peu sceptiques. Ils voient un jeune qui vient, qui propose des histoires, il va pas vraiment beaucoup aimer. Mais ce que nous proposons justement, on se dit, pour éviter ce genre de situation, vous pouvez par exemple décider de faire ce qu'on appelle des essais gratuits. d'un produit. Je prends l'exemple d'une dame que j'ai connue dans le secteur des cleaning. Qu'est-ce qu'elle avait fait? Elle proposait les cleaning. Elle est arrivée dans une entreprise. Elle leur a dit, OK, moi, je vous propose mes services pendant un mois. Vous ne me payez rien, mais au moins, vous allez voir comment je vais faire. Elle s'est battue, comme je dis, les petits moyens de bord pour avoir des polos, pour que les gens soient quand même propres, etc. Et pendant un mois, elle a travaillé dans une entreprise de télécom. Et lorsque les un mois sont finis, elle est partie. Mais le DG de l'entreprise, après 3-4 jours, les bureaux étaient très propres. Elle s'est rendue compte que, oh, mais qu'est-ce qui se passe? Non, mais la dame qui était là, qui proposait ses services, elle est partie. Mais pourquoi elle est partie? Mais on n'avait pas de contrat. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je vois que les bureaux sont propres. Donc,
elle doit revenir.
Quelque part, elle doit revenir. Donc, ça veut dire qu'au départ, c'est vrai que l'idée est là. Mais le grand challenge, c'est qu'il faut avoir les premiers clients. Qui seront vos ambassadeurs? Parce que c'est le bouche à oreille. Hein, parce qu'au début, il faut toujours que quelqu'un te recommande quelque part. Donc, le challenge, c'est que les petits moyens que vous avez là, c'est pour que vous puissiez mettre en place un mécanisme pour proposer des services. Les jeunes qui sont dans le marketing digital et autres, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils peuvent se dire, OK, je me bats pour avoir peut-être des moyens pour concevoir peut-être une campagne déjà pour tel client. Il va sur place, il fait sa démonstration, il amène, etc., etc. Lui, tout ce qu'il cherche, ce sont des références. Si quelqu'un va prendre l'idée, OK, au moins, est-ce que vous pouvez accepter que je vous cite comme référence? Comme ça, quand il va aller chercher d'autres, il va dire, effectivement, j'avais déjà X personnes pour le faire. Donc, les moyens, c'est vrai, on est censé en avoir, mais le plus important, c'est mettre en place des stratégies pour avoir les premiers clients qui pourront accepter. Et comme j'ai dit, comme les stratégies, ça peut être des essais gratuits, ça peut aussi être, comme on a dit, vous casser les prix. Hein. Donc on appelle ça prix de pénétration. Quelque chose qui coûte à 10, vous allez vous dire, OK, donnez-moi même 3.
Ou 2.
Donnez-moi même ça, comme ça, au moins vous vous battez dès que le travail a été très bien fait. C'est vrai que vous n'avez rien gagné, mais au moins vous avez une référence. Quand vous allez aller ailleurs, vous allez commencer à montrer petit à petit vos références. Et ce sont ces références-là qui feront en sorte que d'autres vont se dire, si ce monsieur a travaillé avec telle banque, c'est que sûrement cette banque-là lui a donné beaucoup d'argent. D'où, moi, je peux lui donner tel argent. Donc, ça fait que, alors que peut-être cette banque-là ne t'a rien donné. Et c'est comme ça que petit à petit,
en tout cas,
que tu peux commencer maintenant à commencer à voir tes premiers clients, tes premières entrées. Parce que c'est vrai que les moyens, on les a pas toujours au départ. Et c'est là où justement, dans notre webinaire, on a beaucoup insisté sur le fait que on appelle ça les investissements, le capital en nature ou le capital en industrie. Hein, dans le sens que moi, j'ai des idées, je crée mon entreprise, nous sommes à deux. On a créé notre entreprise, on se dit, OK, nous allons, par exemple, nous sommes deux architectes, on va créer un cabinet d'architecture. Bon, on n'a pas vraiment mis de l'argent, mais on fait 50-50. Quand il y a l'argent, on va partager à deux. Ça peut créer demain des problèmes. Parce que qu'est-ce qui va se passer? C'est vrai que vous n'avez pas mis de l'argent, mais il y aura sûrement l'un d'eux qui, à la longue, aura le sentiment qu'il travaille beaucoup que l'autre. Et après, on risque de commencer à avoir des plaintes. D'où, à un certain moment, c'est toujours mieux de se battre pour que le capital soit en numéraire. Comme ça, les responsabilités soient garanties en fonction de ça. Or, si vous êtes bien conseillé, on va vous dire que, par exemple, évitez le 50-50. Parce que quand vous mettez 50-50, il n'y aura jamais quelqu'un qui va décider dans l'entreprise. Donc peut-être 51-49. Au moins, si vous avez cette idée-là, quand vous allez créer votre business, vous savez que, OK, c'est vrai, on est à 2 mais 51-49. Donc moi, je suis au moins actionnaire majoritaire parce que une entreprise, elle se forme parce qu'il y a la majorité. Or, si vous voulez avoir, par exemple, la majorité totale dans votre entreprise, il faut au moins avoir 75%. Au moins, vous savez que non, moi, j'ai au moins 75%. En ce moment-là, ça va marcher. Donc, c'est un peu ces stratégies-là qu'il faut pouvoir développer. Et c'est important que les entrepreneurs, que les jeunes aient déjà ça pour que quand ils commencent à petit à lancer leur business, par exemple, ce qui nous arrive aussi à un certain moment, c'est que tu peux tomber sur un bailleur de fonds. Le bailleur de fonds te constate, il voit que tu as beaucoup de talent, il voit que, OK, par exemple, vous êtes très fort, par exemple, dans le design. Il se dit, OK, moi, j'aimerais qu'on s'associe par rapport au design, mais toi, tu n'as rien, mais moi, j'amène, par exemple, 2 000 $. Donc, ça fait que moi, je deviens majoritaire. En ce moment-là, tes actions ou ton mind-là doit être valorisé. Si vous êtes bien conseillé, vous allez dire, c'est vrai que je n'ai pas apporté peut-être de l'argent comme ça, mais dans le capital, comme c'est moi qui fournis l'essentiel du travail, moi, je dois, par exemple, avoir 60% contre 40%. C'est vrai que vous avez mis de l'argent, mais moi, j'ai apporté ça et cela a été valorisé. Et même plus tard, lorsque vous allez avoir les moyens, vous pouvez même procéder à une augmentation de capital. C'est-à-dire, vous mettez maintenant de l'argent pour que, au moins, vous puissiez être garanti que vous n'allez pas avoir des soucis. Donc, voilà un peu les choses qu'il faut faire et éviter.
Mais beaucoup de jeunes se découragent au départ. Lorsque on se lance dans quelque chose, on constate que 6 mois après, 1 année après, ça ne marche pas, on se décourage. Quel conseil pourriez-vous donner à ces jeunes?
Bon, déjà, j'aimerais qu'ils sachent déjà que, comme je vous ai dit, il existe une statistique mondiale, donc qu'on est autour de 3/4. Donc 3/4 des business qui sont lancés disparaissent dans les 3-4 ans. Donc ça veut dire que lorsque vous commencez votre affaire, vous lancez votre activité, il y a 3/4 de chances que vous puissiez échouer. Ça, c'est déjà dans votre mental, vous savez déjà ça. On a parlé aussi des qualités de l'entrepreneur. Il faut aussi avoir des qualités mentales. Vous savez que j'ai le risque d'échec, je peux échouer, mais je vais prendre toutes mes précautions, toutes mes dispositions pour ne pas échouer. Donc dès le départ, vous dites déjà ça. Que, voilà, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qui ont fait que les autres ont échoué? Ah non, les autres ont fait ça. Moi, je veux éviter ça. Je suis arrivé à telle étape. Je dois signer le contrat. Qu'est-ce qui fait que les gens échouent dans les affaires? Non, en tout cas, ils signent des mauvais contrats, des mauvaises clauses. Ok. Qu'est-ce qui fait que les associés se séparent? Par exemple, ils se respectent pas. Ok. On met en place. C'est-à-dire, si vous avez déjà ces éléments-là, déjà en commençant, vous allez commencer à minimiser déjà ça. Mais ça peut aussi arriver, hein, pour une raison, comme on l'a dit. Je prends l'exemple de nos amis qui étaient à Goma, pour une situation politique, etc. Ça fait qu'on est obligé d'arrêter avec le business. Dans ce cas-là, vous vous dites, ok, je vais reprendre. Je recommanderais beaucoup aux jeunes de lire les autobiographies. Parce que si vous lisez les autobiographies des gens, même aujourd'hui avec l'IA, on peut te résumer. Par exemple, te dire, ok, Bill Gates, on te résume. Warren Buffett, on te résume. Vous allez voir que ces gens-là, c'était peut-être alors 3e, 4e, 5e business. Donc, ça veut dire qu'il faut développer aussi la persévérance. Donc, vous avez échoué, c'est vrai. Pourquoi vous avez échoué? Parce que si votre échec a été lié à des erreurs, prochainement, il y a moyen de corriger les erreurs. Moi, je connais des gens qui sont tombés, mais il est reparti et après, ça marchait. Donc, faut pas se décourager. L'erreur peut être évitable et si on échoue, on analyse les raisons et après, s'il faut rebondir.
Il faut rebondir.
Non, il faut toujours rebondir.
Mais Serge Mombo, il y a aussi cette peur d'échouer qui fait que même certains ne veulent pas oser, ne veulent pas commencer.
Mais justement.
Parce qu'ils regardent, il n'a que $500, il n'a que $1,000. Il s'est dit, si je me lance et que tous les $1,000, tous les $500 sont bousillés, je suis foutu. J'y retourne à zéro. Or, vous dites que vous avez commencé avec rien.
Oui. C'est ça que je dis. Le départ, on rentre, j'ai $500. Est-ce que les $500, je prends un exemple, est-ce que les $500 peuvent me permettre de lancer tel type de business? Parce qu'il y a des business, vous en faites pas. $500, ça va pas suffire. C'est déjà très peu. Donc, quand vous avez déjà un capital qui est très peu, après analyse, vous n'allez pas vous lancer parce que l'échec est certain. Donc, comme j'ai dit, tout commence d'abord par l'analyse. Est-ce que ce que vous avez comme capital, là, quel type de business peut entrer? Tout à l'heure, là, je parlais avec l'une de mes stagiaires. Elle me dit qu'elle vendait tiramisu, un truc comme ça. Là. Elle vendait ça, je crois, à $8, etc. Ça. Vous voyez que pour une personne qui va peut-être se lancer dans ce genre des affaires, un $500 ou $1,000, ça peut-être aller. Mais pour quelqu'un qui veut lancer une agence de publicité, vous voyez que c'est quand même difficile de lancer une agence de publicité
avec
$500. Donc, c'est ce genre de questions qu'il faut se poser. Nous, notre problème à nous, à travers tout ce qu'on veut faire comme conférence et autres, c'est justement que l'action soit toujours précédée d'une réflexion, d'une analyse. Et vous allez voir que il y a certains cas où vous vous dites, j'ai $500, j'aimerais faire ça. Mais après analyse, vous rendez compte que non, ça ne vaut même pas la peine. Dans ce cas-là, peut-être vous allez soit épargner, parce qu'on peut aussi épargner de l'argent. On peut aussi peut-être, au lieu d'être entrepreneur, vous dites, ok, je ne serai pas peut-être entrepreneur, je serai peut-être distributeur, ou bien je vais peut-être travailler d'abord les 3, les 4 premières années. Après, peut-être quand je serai un peu plus prêt ou j'aurai un peu plus d'argent, en ce moment-là, je vais pouvoir lancer le business. Donc c'est ce genre de réflexion. Nous, on aimerait que les gens réfléchissent d'abord. Faut pas y aller juste parce que c'est la mode. Faut pas y aller juste parce que apparemment ça peut marcher. Non. En tout cas, ceux qui y vont comme ça risquent vraiment d'échouer.
Combien ont participé à votre webinaire du 26 février?
Bon, c'était une centaine.
Hein? Majoritairement des jeunes.
Oui, c'était majoritairement des jeunes.
Et après avoir diagnostiqué justement les causes de l'échec entrepreneurial, qu'est-ce que vous avez donné comme piste de solution à tous ceux qui ont participé et c'est aussi une occasion d'expliquer cela à tous nos auditeurs, à tous ces jeunes qui nous suivent.
Bon, au fait, nous avons donné à chaque fois des pistes de solution à travers des étapes. Donc, comme on l'avait dit, la première étape, c'est le secteur d'activité. Je me lance dans quel secteur d'activité?
Il faut maîtriser les secteurs.
On s'est dit, il faut d'abord maîtriser le secteur, faire des études, faire les analyses. En ce moment-là, vous vous dites, ok, je peux lancer. On se dit capital social, donc je dois lancer mon business. Certains se disent, ok, moi je veux faire mon business, je veux être seul. Je ne veux pas m'encombrer les associés. C'est moi, ma propre entreprise, c'est moi qui décide. Bon, nous on s'est dit, ça dépend de vos ambitions. Si vous avez des grandes ambitions, c'est-à-dire travailler avec des grandes sociétés, si vous êtes seul, ça ne va pas marcher. Vous risquez peut-être demain d'avoir des dépressions et autres. Donc, dans ce cas-là, on recommande peut-être que vous puissiez décentraliser les tâches. Et comme on a dit, vous entourez vraiment les bonnes personnes. qui vont en ce moment-là, même si vous êtes seul, ils travaillent autour de vous, mais ce sont des personnes qui maîtrisent, et ces personnes-là pourront bien vous orienter. Mais aussi, comme on a dit, au niveau de votre management, être froid. Être froid, c'est-à-dire que c'est pas parce que la famille me demande, c'est pas parce que les amis, les copains, les copines me demandent que je dois nécessairement prendre ces personnes-là pour les engager. Ça n'a rien à voir. Dans nos mentalités, généralement, ça ne marche pas. Un ami avec qui vous avez bu hier le soir, ou bien vous avez regardé le match de Barça jusqu'à 23h, le lendemain, si vous avez réunion à 8h, il peut te faire rire et te dire, mon cher ami, je suis venu en retard parce que hier, toi et moi, on
suivait le match du Barça Real Madrid.
Voilà. Alors que dans une situation normale, même si vous êtes ami ou un membre de famille, il faut être professionnel. Mais dans notre contexte, si tu te rends compte que ce n'est pas possible, faut pas le faire. Si tu le fais, tu mets des proches dans ton entreprise. Le jour, il va voler. Tu vas pas l'arrêter. Parce que si tu essaies de l'arrêter, la famille va te dire comment tu vas arrêter ta cousine, comment tu vas arrêter ton frère. Vous voyez que si déjà vous voyez déjà très loin, vous dites déjà par principe, dans mon business, pas de famille, pas de relation. Je prends des personnes que je ne connais pas, mais qui peuvent avoir des bonnes qualités professionnelles. Par exemple, ce problème-là qui consiste à négliger le capital humain. Vous savez, aujourd'hui, il y a des gens qui, parce qu'il est DG, parce qu'il est boss, il mystifie son travail. Il connaît tout, il veut recevoir des conseils de personnes, il engueule les gens comme des petits-enfants, des trucs comme ça. Mais il y aura des répercussions, les gens vont partir. Et quand les gens partent, c'est vous qui perdez à la longue, parce que vous allez de plus en plus prendre des jeunes qui n'ont pas de l'expérience, qui à un certain moment aussi, comme on l'a dit, eux aussi partiront. Je faisais même rire lors de webinaire, je disais que j'ai une personne que je connais, ça fait maintenant 5 ans, déjà 10 assistants. Les gens viennent, partent, les gens viennent, mais ça crée l'instabilité. Même dans l'entreprise, donc, au niveau même du management, de la gestion de chaque jour, on a recommandé ça. Il faut savoir planifier les tâches, faire des réunions. Parfois, les gens pensent que les réunions, c'est pas important. C'est très important. Il faut mettre en place ce qu'on appelle la gouvernance dans votre entreprise, des mécanismes de contrôle. Aujourd'hui, quand on est DG, on confond sa propre poche avec la caisse de l'entreprise. Donc, il faut mettre en place des principes. L'argent ne sort pas de n'importe quelle manière. Et vous êtes déjà fixé vos ratios. Si je prends par exemple la charge du personnel, comment expliquer que vous avez des charges de 3, je peux dire 30% pour votre personnel, et vous n'arrivez pas à les payer. C'est anormal, du moment où il y a des entrées. Donc ça veut dire qu'il faut avoir quelqu'un qui va vous dire, effectivement, regardez, on a encaissé X montant, on met d'abord de côté X montant pour 1, 2, 3, 4 charges, parce que c'est important. On a aussi insisté notamment sur la gestion financière. Aujourd'hui, parfois, on a des réflexes qui peuvent nous amener à l'échec. Vous avez besoin d'argent, on vous dit non, allez chez les banques Lambert ou bien allez voir tel changeur de monnaie qui peut vous donner X montant avec moyennant un pourcentage. C'est vrai que ça peut paraître intéressant, mais si vous avez des bonnes notions ou bien vous êtes bien conseillé en matière de gestion financière, on peut vous dire, ok, l'escompte des factures existe. Donc, si vous avez une facture, vous pouvez aller à la banque, à votre banque, pour demander 70% ou 80% du montant. Et la banque est censée vous la donner. Vous voyez que ce sont des choses comme ça. Parfois, on a peur, c'est vrai. Mais si vous voulez gagner plus, vous devez être formel. Vous devez vous formaliser. Donc, vous devez avoir les documents. Parce que regardez maintenant, on parle de factures normalisées. Toutes les personnes qui aujourd'hui sont dans l'informel, s'il arrive à avoir une entreprise, ce qu'on appelle couramment les grandes entreprises, il sera coincé parce que on va lui dire, pour facturer, il faut la facture normalisée. Or, pour avoir la facture normalisée, il faut être reconnu par la DGI. Ouais. Pour être reconnu par la DGI, il faut avoir un numéro d'impôt, le NIF, donc le numéro d'impôt fiscal. Ça veut dire que, quelque part, vous risquez de vous limiter vous-même si vous êtes ambitieux. Je précise bien, si vous êtes ambitieux, vous risquez de vous limiter. Donc, ça veut dire qu'il y a des efforts à faire pour pouvoir obtenir ces documents-là et pouvoir le faire. Je connais, par exemple, une personne qui n'avait pas les documents. Il a eu un marché et il est allé se faire facturer par quelqu'un d'autre. C'est vrai que la personne a facturé, mais lui-même a commencé à avoir des difficultés pour avoir l'argent. Et après, il a voulu aller accuser, vous dire non, voilà, je n'arrive pas à honorer mes engagements parce que l'argent que m'avait payé, mon partenaire ne m'a pas payé. À qui la faute? Si par contre, tu avais fait un effort pour avoir tes documents, en ce moment-là, tu aurais pu être facturé normalement. Donc, ce sont ces efforts-là à faire. C'est vrai qu'on a parfois peur, comme vous dites là, que voilà, si je me formalise, je serai embêté. Mais si vous ne vous formalisez pas, vous n'aurez pas des gros marchés. C'est là où je parle de quel type d'entrepreneur on veut être. Est-ce qu'on veut être un entrepreneur de survie, un peu comme les mamans qui vont les baigner, c'est-à-dire juste ce que je veux gagner va juste me permettre de satisfaire mes besoins immédiats, ou vous dites que non, je veux m'enrichir. Donc, je veux demain avoir davantage des moyens. Donc, si c'est le cas, vous devez vous formaliser. Vous devez ouvrir un compte bancaire, Vous devez payer vos impôts. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, pour avoir les marchés, on demande le quitus fiscal. En tout cas, dans beaucoup d'appels d'offres aujourd'hui, on va vous dire « amenez-moi le quitus fiscal ». Or, pour avoir le quitus fiscal, vous devez avoir payé vos impôts au moins pendant cette période-là. Donc, c'est un peu ça comme je dis. C'est vrai que ça peut paraître difficile. Comme on dit un cercle vicieux, vous dites « ok ». Je préfère ne pas me formaliser parce que je dois quand même survivre. Mais à un certain moment, vous le faites pas, mais ça va vous rattraper. Moi, je connais quelqu'un qui me dit, mais qu'est-ce qui m'avait pris de me formaliser? Dès que j'ai ouvert mon numéro impôt, j'ai commencé à déclarer, j'ai commencé à avoir des embêtements là, pas possible. Je vais arrêter d'ailleurs à cause de... il me dit, monsieur Serge, non.
Trop, c'est trop.
Non. Tu retrouves la DGI, la commune, tu retrouves... Ah, mais non. Non, c'est trop. En tout cas, j'arrête. Je n'aurais même pas dû. J'aurais dû rester dans mon.
Dans l'informel. J'étais très bien là-bas.
Mais je lui ai dit, effectivement, quand tu analyses bien, il y a certaines petites erreurs que tu as commises. Parce que quand tu factures 10, tu dis que tu as facturé 10 et que tu mets 1,6 de TVA. Ça veut dire que tu as facturé 11,6. Mais quand tu reçois les 11,6, tu enlèves le 1,6 là. Paye ta TVA. Mais tu n'as pas payé. Et eux, maintenant, ils remarquent ça. Parce que ces gens-là, ils peuvent juste écrire à la banque pour savoir est-ce que vous avez telle personne comme client. Si c'est OK, donnez-moi les relevés bancaires. Donc, toi, maintenant, de ton côté, tu n'as pas pris cette précaution-là. Mais quand ils vont venir...
Tu es attrapé. En tout cas.
Mais c'est le prix à payer. Parce que si vous lâchez, regardez maintenant toutes ces personnes qui réussissent. Parce que quand vous ne trompez pas, l'entrepreneuriat, ça marche pour beaucoup de gens. Il y a des gens qui montent en puissance d'année en année. Donc ça veut dire qu'il faut se battre pour être dans cette catégorie-là. C'est vrai que ce n'est pas facile. Hein. Comme on dit, presque 80% des gens échouent. Vous dites, OK, moi je ferai partie des 20%.
Des 20% là, voilà.
Je vais prendre mes précautions, je vais prendre mes dispositions. En tout cas, moi, hein, et comme on le dit souvent, je serai la tête et pas la queue. Moi, ça va aller. Mais vous prenez vos précautions, vous prenez vos dispositions. Et comme je dis aux gens, il faut jamais se classer dans la généralité. Il faut se classer dans l'exception.
Dans l'exception, exact.
Et si chaque jeune a ça à l'esprit pour se dire, OK, c'est dur, c'est compliqué, mais moi, je vais faire les choses, ça va marcher. C'est vrai qu'au début, ça sera un peu compliqué, mais en fin de compte, ça va marcher. Je prendrai les bonnes décisions, je vais bien m'entourer. En tout cas, comme je vous ai dit, peut-être si ça marche pas une première fois, on va essayer et ça va marcher.
Voilà, mesdames et messieurs, nous vous rappelons que vous suivez le magazine 100% Jeunes et aujourd'hui, nous recevons le directeur général des Target SRL qui justement s'adresse aux jeunes par rapport à l'entrepreneuriat. Alors, monsieur Serge Mumbu, que fait votre organisation Target SRL pour accompagner les jeunes entrepreneurs?
Bon, déjà, comme je vous ai dit, nous sommes un cabinet d'études de marché. Alors, dans le cabinet d'études de marché, bien sûr, s'il y a des jeunes, s'il y a des personnes qui viennent, comme on l'a dit, ça dépend du projet. Comme j'ai dit, est-ce que c'est un projet intéressant ou pas? Ça dépend aussi des moyens que la personne peut avoir. Ça dépend aussi des différentes opportunités. Moi, ça m'est arrivé des fois où on a demandé à certains qu'on fasse la compensation parce que nous aussi, nous avons des besoins en tant qu'entreprise. Donc, on essaie toujours de voir comment ceux qui nous approchent pour des besoins spécifiques, comment faire. Mais si nous avons la possibilité de communiquer, de parler, en tout cas on n'a jamais hésité. Moi particulièrement, lorsque je me retrouve dans une ville quelque part, je n'ai jamais hésité à faire des conférences, à rencontrer des jeunes, justement à leur parler un peu de ça, pour que justement si on peut arriver à créer plus tard des vocations, ce serait quelque chose de très bien. Donc on a ces deux aspects là où en termes de business on peut nous contacter et si on arrive tant bien que mal à se mettre d'accord ou bien à trouver des intérêts communs, on peut travailler. Mais de l'autre côté aussi, on a cette passion-là de pouvoir partager gratuitement nos idées, nos expériences à travers des conférences.
Vous avez des actions en perspective, notamment des conférences après ces webinaires du 26 février?
Oui, ça entre déjà dans notre plan d'action. Je pense que le mois prochain, ce Target, comme je vous ai dit, On a un cabinet, on travaille également dans d'autres pays. Je pense que le mois prochain, on sera à Brazzaville. Donc là également, nous allons voir dans quelle mesure organiser quelque chose et essayer de parler avec eux. Je sais que à Lubumbashi, ça sera, je crois, au mois de juin. On va le faire. Donc ça, c'est ce côté-là, comme on a dit, de redevabilité par rapport à la société, que nous devons également faire cela. Mais nous insistons beaucoup, là, quand je m'adresse à des jeunes. Vous savez, aujourd'hui, on critique les réseaux sociaux. Mais les réseaux sociaux aujourd'hui sont une source d'inspiration très forte, surtout en termes de développement personnel. En tout cas, j'ai toujours dit aux gens, comment parler en public? Mettez ça, paf, comment parler en public? Vous allez voir, il y a des cours, il y a des applications qui permettent de le faire pour parler anglais. En tout cas, il y a à la fois des choses gratuites, mais il y a aussi des choses qui peuvent être payantes. Mais c'est important aujourd'hui pour les jeunes, les entrepreneurs, de se former. Quand on dit que je dois avoir un financement, parce que beaucoup de jeunes veulent avoir un financement, mais on va vous dire que le financement, pour l'obtenir, il faut un business plan. Alors, parfois, on peut vous mystifier, le business plan, c'est compliqué, mais vous pouvez l'apprendre. Vous pouvez apprendre, prendre le temps, parce qu'au lieu de faire une heure par jour, je regarde même je demande à beaucoup de gens de faire les statistiques mensuelles de leur utilisation des écrans, parce que moi, ça me sort chaque semaine. Hein. Voilà comment le temps que j'ai passé. Vous allez voir, il y a des gens qui font 6 heures, 7 heures, 8 heures par jour sur leur écran. Mais vous allez voir que c'est essentiellement sur les réseaux sociaux et sur l'actualité. C'est vrai que c'est bien de temps en temps de se détendre, mais je me dis que si on a la possibilité de se former, d'apprendre, comme on l'a dit, les notions de base de management, c'est possible d'avoir ça et ça existe aujourd'hui sur Internet. Comment parler en public, comment gérer le temps, comment vaincre le stress. Il y a beaucoup de thématiques comme ça que l'on peut aujourd'hui sur YouTube et autres avoir ça. On lit, on se documente, on essaye un peu d'expérimenter l'art de se vendre, les techniques de négociation. Je pense que ce sont des thématiques comme ça que l'on peut de temps en temps commencer à lire. Et aussi ce que moi j'appelle le networking. C'est un élément très important. Aujourd'hui, il ne faut pas hésiter. Lorsqu'il y a des rencontres, lorsqu'il y a des possibilités d'être dans des conférences et autres, il faut y aller. On se bat pour avoir sa petite carte de visite. On rencontre les gens, au moins vous échangez. Et on ne sait jamais. Demain, vous pouvez vous retrouver dans une situation où vous dites, OK, ah, je me rappelle, j'avais rencontré X personnes qui étaient dans tel secteur. Et si vous êtes resté en contact, notamment avec les réseaux comme LinkedIn, ça vous permet petit à petit de vous forger. Le problème avec nous, entrepreneurs, surtout les jeunes, on a un peu un esprit où on pense que c'est du tic au tac. Donc je commence, je dois avoir le business. Non, il faut à un certain moment être vraiment patient. Il faut avoir de la patience en tout cas. Petit à petit, moi comme je vous ai dit, on a commencé. Mais ce que nous sommes aujourd'hui, je vous dis sincèrement, on a vécu la galère, ce qu'on appelle en français l'impiaka. On a connu ça.
Mais aujourd'hui, Serge Moubou est connu en tant qu'entrepreneur, coach en entrepreneuriat. Voilà. Alors, il y a une observation, parce que dans le cadre de cette émission, à Radio Capi, nous recevons des jeunes. Et il y a un constat qui, moi, personnellement, a été révélé. Vous, entrepreneur, qui êtes déjà assis dans le domaine. Par exemple, vous, c'est un exemple, Serge Moubou, vous êtes connu. Et quand il y a des jeunes qui veulent commencer, qui ont des bonnes idées, parfois, vous bloquez la porte. C'est-à-dire, il peut vous approcher. Il vous approche, il vous balance son idée. Au lieu de l'accompagner dans son idée, vous prenez plutôt son idée, vous la développez et lui, il est sacrifié.
Justement, je vous ai dit que nous sommes dans le contexte congolais. Hein, et ce que vous dites là, c'est une réalité qui existe dans le contexte congolais. Et il ne faut pas se leurrer par rapport à ça. Donc, quand vous êtes jeune, vous abordez des gens, vous devez savoir qu'il y a risque que votre idée soit volée. Ça, vous devez déjà le savoir. Il ne faut pas faire comme on a dit, c'est un monde de bisounours. Non, vous dites que non. J'approche ce monsieur ici, il peut voler mon idée.
Donc, alors, mais c'est quand même un risque à comprendre.
Oui, mais il y a des précautions à prendre. Je pense que, vous savez, les idées peuvent être protégées. Moi, je me rappelle, j'avais rencontré un monsieur, effectivement, qui m'a dit, vous voyez le nom de cette entreprise ici. J'avais rencontré ce monsieur. Ça, c'est moi. C'est mon idée. Ce vieux-là, parce que je le connais, ton gars-là, il est faux vieux. J'ai dit, effectivement, c'est une réalité. Voilà pourquoi je dis que lorsqu'on approche, il faut aussi voir peut-être comment, dans la manière de présenter, peut-être ne pas aller dans trop de détails aussi. Ça c'est aussi un conseil qu'on donne. Faut pas donner aussi trop de détails. Oh oui, effectivement. Envoyez-moi votre truc, je veux voir. Effectivement. Et aussi, en termes de réputation, je pense que quand on dit qu'il faut faire des analyses, en tout cas, je pense qu'il y a moyen de se renseigner aussi sur une personne. Vous avez rencontré 2, 3, 4 personnes. Si c'est possible de vous renseigner un peu, vous allez peut-être vous renseigner. Quelqu'un peut vous dire, s'il vous plaît, ne l'approchez pas. Si vous l'approchez, vous allez avoir un problème. Regardez, 1, 2, 3, 4. Donc, se renseigner, donc prendre les précautions pour protéger l'idée, se renseigner sur la réputation de la personne. Et troisièmement, comme je vous ai dit, il ne faut pas vivre dans un monde idéaliste. Ce qui est sûr, même moi-même, je peux le témoigner, les portes se ferment toujours. Regardez même l'exemple banal des musiciens. Tous ces jeunes musiciens qui ont commencé, même Wenge, quand ils ont commencé, on a voulu les casser par leurs aînés. C'est quelque chose qui est dans notre environnement. Alors, si vous êtes déjà préparé à ça, vous dites qu'effectivement, je serai combattu, on va chercher à m'étouffer, mais je dois maintenant trouver des stratégies, je dois maintenant trouver des moyens pour contourner ça. Et comme je vous ai dit, une porte se ferme, une autre va s'ouvrir. Alors, si vous avez déjà cet état d'esprit-là, vous allez vous dire, OK, moi, je me rappelle à l'époque, quelqu'un m'avait donné une idée. J'étais en train de suivre un client. Ça faisait 4 ans, 5 ans, je n'arrivais pas à voir ce client-là. Il me dit, Serge, arrête de suivre ce client-là. Cherche d'autres opportunités. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parfois, nous-mêmes aussi, on vous dit, OK, moi, je veux seulement travailler avec cette banque-là ou bien avec le secteur bancaire. Si le secteur bancaire t'est fermé, va chercher d'autres secteurs, va chercher d'autres créneaux. Si dans un secteur, vous êtes trop nombreux et que vous avez du mal à vous positionner, cherchez d'autres. Moi, je pense que c'est ce travail-là que moi, j'appelle d'analyse qui est très important, qui peuvent justement orienter. Et j'insiste, faut pas compter sur les gens. Faut pas s'imaginer, comme on a dit, qu'on va vous ouvrir les portes comme ça. Malheureusement, c'est notre environnement. Il est comme ça. C'est une réalité qu'il faut déjà intégrer. Ce qui veut dire que vous n'allez pas être naïf. Donc, quand vous avez votre idée, vous savez que X, c'est vrai, je l'apprécie, c'est un, entre guillemets, un entrepreneur, mais soyez prudent.
Alors, nous sommes presque à la fin de notre émission. Un dernier message à tous ces jeunes en quelques secondes.
Bon, en tout cas, le dernier message, c'est que c'est important d'avoir un rêve. Et c'est important d'essayer de vivre ce rêve-là. Et moi, je donne toujours un conseil. Il vaut mieux échouer que d'avoir le regret de ne pas avoir échoué, de ne pas avoir essayé. Il faut toujours tenter. Mais comme je l'ai dit, avant de tenter, il faut être réaliste. Bien analyser les choses et tenter. Si ça ne marche pas, ça va aller. Mais il ne faut pas avoir peur. Moi, je dis toujours aux gens, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose de très bien. Et en tout cas, j'encourage. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, le taux de chômage chez les jeunes, c'est presque 90%. Donc, ça veut dire que si on doit chercher à écrire pour avoir de l'emploi, ça risque d'être compliqué. Donc, s'il y a possibilité de se lancer, mais on ne peut pas se lancer seul. J'insiste, on ne peut pas se lancer seul. Il faut voir comment se faire entourer, voir comment se lancer dans un business qui peut apporter et persévérer. Comme on a dit, on tombe, on essaie d'aller de l'avant. Et je pense que moi, je suis convaincu que ça va aller. Il faut faire partie de la minorité qui va réussir demain.
Serge Mumbu, merci d'être passé dans notre magazine 100% Jeune.
Ok, c'est moi qui vous remercie.
Ainsi s'achève ce numéro de votre magazine 100% Jeune consacré à l'échec entrepreneurial en RDC, cause et solution. Merci à notre invité Serge Mumbu, directeur général des Target SRL, pour ses analyses et conseils aux jeunes. Merci également à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité. Cette émission a été mise en onde par André Mungu, coordination et présentation grâce à Mzati, sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro de 100% Jeune. Au revoir et à la prochaine.